Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure, downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale classique. Nous aborderons entre autres deux sorties Rimini édition avec Le chat et le canari de Radley Metzger, L'énigmatique monsieur D de Sheldon Reynolds, trois inédits parus chez Elephant Film, Le mystère d'Edwin Drood de Stuart Walker, Désir de bonheur de Robert Siodmak, Le prix du silence d'Eliot Nugent et enfin chez Carlotta Film, Tokyo Ga de Wim Wenders. On fera un petit clin d'œil aussi, hein. Un coffret Ozu, hein, des Ozu inédits qui arrivent chez Carlotta Film. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Lucie Mottier, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur theextasyoffilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Classique, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, créateur du podcast Écho du Temps, écoutable sur PodCloud, et co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimératech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Mon cher Damien, si je te dis Robert Mitchum, Geneviève Page et Ingrid Thulin, bien avant qu'elle n'aille frayer avec Ingmar Bergman, tu te dis quel casting de rêve. Eh bien, tu ne te trompes pas, c'est effectivement un casting de rêve pour un film aussi énigmatique que l'est son titre d'ailleurs, hein, quand on voit le casting, un film étonnamment méconnu qui s'appelle L'énigmatique Monsieur D, Foreign Intrigue dans la langue de Shakespeare, et qui est un film réalisé par Sheldon Reynolds. L'histoire est assez simple. Un riche homme d'affaires, Victor Dunmore, meurt subitement alors qu'il est en vacances sur la Côte d'Azur. Dave Bishop, qui travaillait pour Dunmore au moment de son décès, est intrigué par son passé. En pleine guerre froide, au risque de sa vie, il va mener son enquête à travers l'Europe. Alors, sur ces Mitchum, hein, qui va mener son enquête à travers l'Europe et qui porte sur lui, comme ça, tout le côté film noir. Hein, rien qu'à voir Mitchum qui est là, qui est posé, hein, qui n'a même pas besoin de jouer particulièrement. Il est Robert Mitchum. Voilà, et c'est ce qu'il est dans ce film, Robert Mitchum. On ne lui en demande pas plus parce que le film exerce une sorte de fascination, hein, énormément grâce à sa présence. Alors vous allez me dire Sheldon Reynolds. Bah Sheldon Reynolds, franchement, est un réalisateur très méconnu. Laurent Aknin, hein, dans les bonus, nous en dit un peu plus, hein, sur ce personnage et sur ce film. Alors Sheldon Reynolds, c'est surtout en fait un producteur de télé. Un peu réalisateur aussi pour la télé, mais qui a surtout produit pour la télé les adaptations de Conan Doyle, hein, donc Sherlock Holmes en 54 et Sherlock Holmes and Dr. Watson en 79. Alors pourquoi il y a eu changement de titre et tout, bon, il avait des petits soucis avec les ayants droit, hein, voilà, donc il y a eu des petits bouleversements dans tout ça. Et puis il va produire une série qui s'appelle Foreign Intrigue. Foreign Intrigue, donc, qui est une série qui compte presque 200, enfin plus de 150 épisodes, hein, entre 150 et 200 épisodes qui sont à chaque fois, qui durent 30 minutes et qui mettent en vedette le couple d'agents Robert Cannon et Ellen Davis, qui sont plongés donc dans des affaires d'espionnage, hein, de l'Europe d'après-guerre. Parce que la particularité de cette série, c'est de se dérouler dans une Europe hantée, hein, par les scories de la Seconde Guerre mondiale. Alors le film, Foreign Intrigue, donc, ne réunit pas ce couple. Hein. Il est par contre une prolongation de cette série, mais cette fois-ci sous la forme d'un long métrage, un long métrage d'un peu plus d'une heure et demie, où on va retrouver tous les éléments du film noir, hein, puisqu'on va avoir un rythme assez, assez lent, mais assez envoûtant, assez passionnant, avec, comme dans tout bon film noir, on ne va pas comprendre grand-chose à l'intrigue, mais il n'en demeure pas moins que tout est assez troublant pour maintenir l'intérêt, susciter l'intérêt. Il y a quelques incartades même du côté de la comédie romantique par moment, c'est un peu étrange, mais disons que les principales inspirations de ce film sont évidemment à aller chercher chez le troisième homme de Carol Reed. Il y a aussi un peu d'Hitchcock, un peu d'Orson Welles, mais on voit bien que le Carol Reed a franchement marqué, hein, surtout en particulier lors du final d'ailleurs assez étonnant, voilà, je ne vous en dirai pas plus. Il y a un film qui fonctionne assez bien de par sa part de mystère, et puis alors il y a Ingrid Tulin, certes, qui interprète la blonde hitchcockienne, mais cette femme fatale est confrontée aussi à une autre femme fatale qui est Geneviève Page, l'actrice française de Fanfan la Tulipe, du Cid, de Michel Strogoff, qui parle un anglais parfait, hein, d'ailleurs, c'est pas le cas de tous les acteurs forcément français à l'époque, elle parle un anglais parfait, et elle est assez exceptionnelle dans le film. J'aime beaucoup sa prestation, elle en impose face à Mitchum, c'est assez impressionnant. Donc le film a aussi il a les défauts en fait de son auteur, c'est-à-dire que Sheldon Reynolds vient de la télé, il y a un peu trop de fondu au noir, il y a un peu trop de... On sent que le rythme du film est un peu pensé en fonction des standards télévisuels de son époque, mais le film est une drôle de curiosité, parce que c'est un film qui est là avant le nouvel Hollywood, qui est là... Laurent Aknin le rappelle dans les bonus, hein, c'est un film un peu de transition, voilà. Donc c'est un film assez étonnant, c'est un film assez passionnant, la copie est très très belle, là c'est sorti chez Rimini Édition, et ça s'appelle L'énigmatique Monsieur D. Toujours chez Rimini, nous allons parler maintenant du chat et le canari, le chat et le canari de Radley Metzger. une très belle édition, hein, qui est là accompagnée d'un, d'un livret qui s'intitule « Qui veut gagner des millions ?», un livret de Marc Toulek, à lire, hein, pour en savoir plus sur le film, et puis aussi comment un réalisateur comme Metzger a pu se retrouver, Radley Metzger, aux commandes de ce film. On rappelle que Radley Metzger, c'est un Américain spécialiste dans la sexploitation. C'est entre deux bandes polissonnes que le réalisateur de Fury Porno, qui est d'ailleurs excellent, hein, le titre français ne correspond pas du tout au titre anglais, réalisateur également de Camilla 2000, adapte ce classique du théâtre de Wood Unit anglais, britannique, hein, voilà, Metzger. On rappelle que ce n'est pas parce qu'il vient de l'érotisme et de la pornographie que ce n'est pas un cinéaste ambitieux, c'est vraiment hein, quelqu'un qui n'hésitait pas à faire des choses très, entre guillemets, couillues. Hein. S'il n'hésitait pas à adapter, par exemple, Alain Robbe-Grillet pour l'image, et puis Alexandre Dumas-Fils avec La Dame aux Camélias, mais tout cela dans des versions très, très, très polissonnes. Voilà, donc c'était... C'est un type qui a une carrière plutôt interdit aux moins de 18 ans, voilà, et qui se retrouve à diriger ce Wood Unit au casting assez impressionnant. Mon cher Damien, le chat et le canari, qu'est-ce que ça t'inspire ? Lay off that gigolo routine. What's the matter, Rickenbacker? Am I getting too close to the bone? You always get too close to the bone, you damned killer. Mrs. Crosby was right. You're lucky you're not inside. I did not kill anybody. It was an act. Of course it was. The alcohol is for the patients, not the doctor. When one member of the family stands to inherit a fortune, then it can only lead to trouble and death. I don't know why I should be glum. I've just had dinner with a man who's been dead 20 years. I'm in a house in the middle of nowhere without a telephone. There's a hurricane blowing, and now creepy Mrs. Pleasant thinks there are ghosts in the house, and we're all in some kind of danger. What's more, it turns out there's insanity in the family, and there could be a full-fledged, paid-up lunatic sleeping in the next bed. I'm asking everyone in the area to lock themselves in until morning. That's ridiculous! Well, I don't think you've much choice. And how do you propose we should apprehend this homicidal animal? Do you have an extra weapon? No. Weapons can be as dangerous as maniacs. Honor Blackman, Edward Foss, Olivia Hussey, and Daniel Masson star in a story of murder and intrigue. The Cat and the Crow. Le chat et le canari de Radley Metzger, ça m'évoque Cluedo. Ça m'évoque beaucoup Cluedo, alors qu'il est sorti en vente. Enfin, ça m'inspire Cluedo de Jonathan Lynn, mais qui lui sortira en 1985. Et là, on est sur un film de 1918. Et s'il me l'inspire autant, c'est parce que le film est super bien. Et je trouve qu'il mélange super bien la comédie et le trailer, le film policier. Et en fait, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un film drôle. Je m'attendais à ce que ce soit un film policier un peu daté. Et au fur et à mesure que je regardais, je me disais juste « Ah bah c'est étrange, les dialogues sont un peu bizarres. » Et le moment où j'ai compris que c'était comique, c'est lorsque les cousines sont présentées. Et elle dit « Oui, on est cousines et on est compagnes, mais c'est pas grave parce qu'on ne compte pas avoir d'enfants ensemble. » Et à partir de cette phrase, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui a été confirmé lorsqu'on a ce chef de la police ou docteur qui passe par la fenêtre pour expliquer qu'il y a un patient fou qui s'est échappé et qui dit « Excusez-moi de ma façon peu conventionnelle de rentrer par les fenêtres. » Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que le film était parti pour faire quelque chose d'extrêmement drôle et c'est quelque chose qui fonctionne. Alors, pas à tous les coups, mais il y a vraiment, un peu loufoque qui s'en échappe à plusieurs moments parce que c'est pas un film qui se prend totalement au sérieux et heureusement pour lui. Et c'est en effet au niveau des dialogues où je trouve qu'ils s'en sortent le plus parce que une partie des personnages sont un peu abusés. Il y en a qui sont beaucoup là pour être juste là. Ils ont pas vraiment de... On essaie de les décrire rapidement, mais au final, ça sert pas à grand chose vu qu'ils vont se faire éliminer assez vite. Mais c'est pas juste un film où on s'amuse. C'est aussi un film où le réalisateur arrive à s'amuser un peu sur la mise en scène. Par exemple, on a toute la scène du testament où on a la servante qui essaye de rentrer dans l'écran au même moment où ça a été enregistré pour avoir ce côté de on garde l'atmosphère vivant. Il y a aussi ce truc qu'on retrouve dans le testament avec la personne qui lègue son testament, qui s'est filmé et qui annonce ce qui va se passer. Oui, parce que on l'a pas dit, hein, mais l'histoire est assez simple en fait. C'est un milliardaire excentrique qui meurt en 1914. Et puis, 20 ans plus tard, il invite tout le monde à venir dans son château à Glendive.
il est conservé dans une sorte de sarcophage étrange, comment dire, des bandes qui vont être comment dire, projetées à 6 de ses plus proches descendants, neveux et nièces, parce que lui, il n'avait pas de gamin, en fait. Hein, le testament est assez original, puisque c'est un film synchronisé avec une bande-son, parce qu'on rappelle qu'à l'époque, eh bien, il n'y avait pas de film sonore, hein, à l'époque du film. Et on découvre qu'il lègue son immense fortune à sa nièce Annabelle, mais à condition qu'elle ne décède pas et qu'elle ne devienne pas folle. Et au cas où, il y a un deuxième film qui doit être projeté. Voilà. Et à partir de là, c'est un vrai jeu de massacre qui se déroule sous nos yeux.
Tout à fait, parce que la règle de ne pas être tué et de devenir folle, en fait, elle s'applique pour la nuit. C'est-à-dire que les gens doivent rester sur place et si quelque chose se passe mal, c'est le deuxième héritier qui aura l'argent, sachant que personne n'a vu normalement la deuxième bande, donc personne ne sait qui est le deuxième héritier. Et indirectement, c'est un peu ce qu'on retrouvait dans Glass Onion de Rian Johnson, c'est que à ce moment-là, il pose l'idée dans la tête des gens que s'ils veulent potentiellement hériter, il va falloir se débarrasser de la personne qui vient d'hériter de cet argent. Et donc, lorsqu'on a ce film qui est projeté, on a toute une mise en scène pour que la servante rentre pile derrière l'écran de projection au moment où elle est censée servir. On a d'autres trucs, par exemple, il resserre l'alcool le même alcool qu'il a bu à l'époque, il le resserre à ses clients, ce qui, heureusement pour eux, normalement, a bien vieilli. Il y a même le réalisateur qui s'amuse avec nous, puisque durant tout le moment de la projection, il nous met des plans sur un fil qui est lié à la projection qui commence à s'affaisser. Et en fait, au moment où le testament commence, c'est un repas. Et durant tout le repas, on voit le fil qui relie la caméra qui commence à s'affaisser. On se dit que ça va céder avant même qu'on sache qui est au courant. Et c'est plein de petits jeux d'images qu'on retrouve, ce qui est vraiment impressionnant. C'est un petit film dont j'attendais pas grand-chose. Et au final, je me suis beaucoup amusé. Je trouve que c'est un petit film britannique, mais qui provoque un très grand divertissement.
Moi, je trouve que oui, c'est un chouette film, c'est un film assez étonnant. Hein. Et au final, le réalisateur continue de s'amuser avec nous, puisque dans la dernière partie du film, pour le générique de fin, il s'amuse à briser le quatrième mur d'une manière assez réjouissante. Et donc, ce film, réputé pour être un petit film, en fait, pour moi, se hisse au-dessus de plus grosses productions de Wood Unit, plus cossues, on va dire, parce qu'il y a ce côté fun qu'on retrouve pas forcément hérité de la série B, hérité du vraiment, c'est très rythmé, on s'ennuie pas. C'est vrai que la vieille gouvernante un peu bigote, elle est excellente. Et puis le couple, tu l'as pas dit, c'est Honor Blackman, donc la première la première coéquipière de John Steed dans The Avengers, dans les plus anciennes versions. Donc chapeau melon et bottes de cuir pour les Français.
Oui, précise.
Voilà, et puis sa compagne, c'est une habituée du cinéma bis, puis un couple de lesbiennes, c'était pas si souvent que ça, d'ailleurs, qu'on voyait à l'époque ce type de personnage. C'est Olivia Hussey, la très belle Olivia Hussey, qui a joué à peu près dans tout ce qui se faisait à l'époque dans le bis, dans l'horrifique, puisqu'elle était aussi bien dans le Black Christmas, le film canadien de Bob Clark. Et puis, l'héritière est jouée par Carol Linley, qui est une sorte de blonde platine comme ça, très typique de ce qu'on attend d'une blonde au cinéma, qui fait aussi très bien son rôle de femme apeurée, de femme fragile. Et puis, il faut dire que l'entourée d'une bande de mâles qui sont tous plus timbrés les uns que les autres, et dont un savoureux personnage d'ancien héros de la Première Guerre qui vit de son image, en fait, et qui est un personnage tout à fait savoureux. Personnellement, je connais pas la pièce de John Willard, je sais que c'est un grand classique. J'ai juste moi un tout petit... Pour moi, il y a une toute petite énigme qui s'ajoute à l'énigme, c'est-à-dire que la pièce de John Willard, elle date, je crois, de 21 ou de 22, et il y a déjà eu le Child Canary qui a été... il y a déjà eu des versions avant, visiblement, du film. Donc est-ce que c'est pas le film au départ qui a inspiré la pièce à John Willard, et puis qui après, par retour de bâton, la pièce s'est fait adapter au cinéma. Je ne sais pas. C'est un mystère que je trace là. Alors j'ai rapidement cherché pour l'émission, je n'ai pas trouvé de réponse à ce mystère. Mais on vous invite très fort à voir Le Chat et le Canari de Radley Metzger, qui, si je ne m'abuse, est son seul film non érotique, et qui est édité par Rimini Éditions. We'll be right back.
Après l'énigmatique Monsieur D de Sheldon Reynolds et Le chat et le canari de Radley Metzger, tous deux disponibles chez Rimini Édition, on va changer d'éditeur pour aller chez Elephant Film, qui sort également très régulièrement des films qu'on peut qualifier de classiques. Hein, parce que quand on parle d'émissions consacrées aux classiques, ce n'est pas forcément des classiques du cinéma, mais c'est des films qui ont été réalisés par des réalisateurs dits classiques ou qui adaptent des œuvres dits classiques. Voilà, c'est pour ça qu'on les rentre dans cette case. Eh bien, il faut bien tout rentrer dans des cases, hein, puisqu'il faut trouver des thématiques à chaque émission. Vous allez nous dire, on est parfois plus ou moins bien inspiré. Je vous l'accorde, chères auditrices et auditeurs de Culture Prohibée. En tout cas, moi là, je voulais vous parler de deux films qui se suivent quasiment à une année près. Tout d'abord, une vraie curiosité qui est Désir de bonheur, Time Out of Mind, qui est un film de Robert Siodma, qui est un film de 47. Vous allez me dire, un film noir? Eh bien non, c'est un mélodrame de Robert Siodma, le réalisateur de Criss Cross, tout à fait, qui nous sort là donc un vrai mélodrame, hein, qui est donc là, disponible chez Elephant Film, qui nous raconte l'histoire suivante. Hein, Kate Fernald, servante de la riche famille Fortune, s'éprend du fils de Christopher, donc l'enfant prodige, promis à une carrière toute tracée dans la marine. Il revient blessé de son premier voyage en mer et il décide de se consacrer à la musique, uniquement à la musique, et de fuir à Paris avec l'aide de Kate, donc, pour y apprendre le piano. Et voilà que va démarrer un film très, très, très étrange, puisque le film démarre un peu comme un thriller à l'ancienne. On voit, parce que c'est un mélodrame gothique hein, quand même, donc on voit une vieille maison, c'est très sombre, c'est vraiment filmé comme le film noir, on se refait pas, c'est Sean Mac. Hein. On est dans la Nouvelle-Angleterre au 19e, et on voit des habitants, dans un manoir comme ça au bord de la mer, et évidemment on est en bord de mer, donc le film va s'ouvrir sur des vagues qui s'écrasent sur les rochers, et puis il va y avoir un lent panoramique qui va révéler cette maison énorme, massive, qui se trouve au sommet d'une colline, et ça démarre en fait un peu comme un film de maison hantée, tout simplement. C'est assez étonnant, ça peut même rappeler de Invisible Man de Liv Vanel, hein, le film de 2020. Mais non, on n'est pas en fait dans un film de maison hantée, on n'est pas non plus dans un film noir, on est effectivement dans un pur mélo. Hein, on redécouvre hein, donc cette Kate Fernald là, qui a grandi dans cette maison. C'est une maison qui est gérée quand même par Leo J. Carroll, qui est le meilleur, hein, qui est le meilleur acteur du film. Hein. Il en impose. Voilà, c'est un marin assez traditionnaliste, hein, le capitaine Fortune. Il est à la retraite et il voudrait que son fils Christopher soit lui aussi un dur à cuire comme lui. Hein. Christopher, qui est joué par Robert Hutton. D'ailleurs, c'est un peu un défaut pour le film, ce Robert Hutton est loin d'en imposer à, comment dire, est loin d'en imposer à son père, et heureusement qu'il peut compter sur sa sœur Rissa, qui est jouée par Ella Raines, fabuleuse Ella Raines, et qui elle tient tête au père, et qui elle est, comment dire, avec Kate hein, d'ailleurs, est très dévouée à Christopher, et c'est un très beau personnage féminin. Malgré tout, le film est doté d'une certaine lenteur. Il est un peu trop bavard. Voilà. Alors le film esthétiquement est très beau, mais on va dire que sorti de Leo J. Carroll et Larenz, le casting est un peu en deçà quand même. Et puis on sent bien que Sean Mac, c'est pas son univers. Alors le film est une vraie curiosité, hein, parce que c'est quand même le réalisateur des Tueurs, de Demain la nuit, de Pour toi j'ai tué, donc hein, voilà, c'est quand même un maître du film noir. Et là, on voit comment il essaye de se dépatouiller hein, de ce mélodrame. Ça s'appelle Désir de bonheur, désir au pluriel, hein, c'est disponible chez Éléphant de Film, et c'est une curiosité qu'on vous encourage à voir, ne serait-ce que pour justement voir quelques éléments de mise en scène qu'on retrouvera dans d'autres films de Sean Mac, mais des films bien plus noirs. Toujours au rayon curiosité, toujours chez Éléphant de Film. On va maintenant parler de Le Prix du silence, donc qui date de très peu de temps après Désir de bonheur. Hein. Le Prix du silence, donc qui est un film de 49, qui est un film d'Eliot Nugent. Vous allez me dire, Le Prix du bonheur, mais de quoi ça parle, Le Prix du bonheur? En fait, bon, c'est un mystère hein, du pourquoi comment de ce titre français, puisqu'en fait, c'est juste l'une des premières adaptations de Gatsby le Magnifique de Scott Fitzgerald, The Great Gatsby. C'est une adaptation avec à la réalisation Elliot Nugent, un réalisateur solide, et qui est assisté de Lewis Allen, qui deviendra aussi un réalisateur solide dans des genres qui nous plaisent bien, voilà, la culture prohibée. Et là, dans le film, on va retrouver Alan Ladd dans le fameux rôle de Jay Gatsby. Hein. Avant DiCaprio et Redford, il y a eu Alan Ladd. L'histoire est simple, hein, pour reconquérir son ancienne fiancée mariée à un millionnaire, Gatsby a lui aussi décidé de grimper dans l'échelle sociale. Et il est prêt à tout. Voilà. Cette version-là serait la deuxième. Il y aurait une version en 26 aussi qui aurait été tournée, en tout cas selon les infos qui circulent sur le net. Mais on ne peut pas retrouver cette version de 26. Donc, la plus vieille que l'on peut voir, c'est bien celle-là. C'est celle d'Eliot Nugent, Le Prix du silence. Donc, qui est, ma foi, un film assez intéressant, même si moi je trouve en fait qu'il n'y a pas de bonne adaptation de Gatsby le Magnifique. Je trouve que toutes les versions qui existent ne sont pas forcément les plus réussies, enfin elles ne sont pas réussies en fait, aucune, et qu'à la limite celui qui aurait réussi à s'approcher pour moi peut-être de l'univers du livre de F. Scott Fitzgerald et puis de la sensibilité du personnage, c'est pour moi je retrouve Gatsby le Magnifique dans les dernières minutes des Portes du Paradis de Michael Cimino. Voilà. Alors, ceux qui ont vu le film me comprendront. Et là, je suis plus dans Gatsby le Magnifique, dans ces quelques minutes, que dans toutes les versions qui existent. Et cette version-là, elle a, comme toutes les autres versions, des difficultés à adapter, à retrouver vraiment la teneur du livre, et surtout sa peinture plutôt... plutôt dur en fait, plutôt vitriolé hein, du monde des fêtards, des oisifs de l'époque, de la bourgeoisie de son temps, qui est toujours un peu survolé dans toutes les versions, en tout cas qui n'a pas la richesse du livre. Et puis là, dans cette version-là, on fait des choix, donc on tronçonne un peu. Hein, on va enlever le personnage du magouilleur Wolfiem, on va enlever Myrtle Wilson. Enfin, on va pas l'enlever, mais bon, c'est un personnage qui apparaît très peu. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que le film ressemble plus à un film de gangster, en vérité. Il débute plutôt comme un film de gangster, et il prend vraiment tous les tics de réalisation des films de gangster de son époque. Alors, c'est assez chouette, les costumes sont chouettes, les soirées chez Gatsby, on sent quand même qu'elles sont un peu policées, quoi. Voilà, on sent qu'on ne pouvait pas tout montrer en 49 au cinéma. Bien évidemment, le code ICE règne. Ça donne un film pour moi un peu en porte-à-faux encore par rapport au bouquin, comme toutes les versions. Par contre, ça reste une illustration intéressante hein, de Gatsby le Magnifique, parce que je la trouve, par exemple, supérieure à la version avec DiCaprio, moi, que j'aime pas beaucoup, en fait. Et donc, je vous le conseille, en tout cas, faites-vous votre idée, c'est intéressant, on reste dans le domaine de la curiosité, un peu comme le film précédent, hein, dont je vous ai parlé. Là, ça s'appelle Le Prix du Silence, donc, hein, en fait, c'est Gatsby Magnifique, mais ça s'appelle Le Prix du Silence. C'est un film de 49 d'Eliott Nugent, et c'est disponible chez Elephant Film. Toujours chez Elephant Film. Alors voilà, là, un film mystérieux. Alors c'est plus qu'une curiosité, c'est qu'un film quasi invisible. Hein. Voilà, c'est en voyant le film sortir chez Elephant Film que j'en ai découvert son existence. En fait, c'est un film réalisé par Stuart Walker. C'est un film de 35. C'est un film de la Universal. Et c'est surtout un film qui s'appelle Le Mystère d'Edwin Drood. Et oui, tous les fans de Charles Dickens savent de quoi je vais parler. Ce fameux Mystère d'Edwin Drood, ce fameux roman non terminé hein, de Charles Dickens, à tel point que d'ailleurs, il y a des noms qui sont apparus maintenant pour désigner certaines coutumes nées de ce qui s'est passé avec ce roman. Parce qu'en fait, c'était Le Mystère d'Edwin Drood, c'était le 15e roman, c'est le dernier roman de Charles Dickens, parce qu'il meurt subitement en juin 1870. Il est épuisé par une tournée d'adieu de 12 lectures publiques de ses œuvres. Et en fait, il n'a le temps de livrer que 6 des 12 chapitres qui sont publiés mensuellement d'avril à septembre 1870. Alors, il avait laissé quelques notes, quelques indications sur la suite. Mais il n'y a pas de fin. Et du coup, depuis 1870, des critiques, des spécialistes, des écrivains essayent de deviner la suite, à tel point qu'il y a eu donc plein de suites publiées, imaginées, des fictions qui en ont été tirées. On a appelé ça l'industrie de la résolution du mystère, mais aussi on a appelé ça la Droodian littérature, la littérature droodienne, littéralement en fait des investigations, des hypothèses, des solutions, toutes sortes de spéculations en fait, pour deviner la suite et la fin de ce 15e ouvrage de Charles Dickens. Et le film ne manque pas à l'appel, hein, il imagine une fin, en fait, hein, tout simplement, hein, de cette histoire donc, qui se déroule à Crosthorham, ville imaginaire, hein, qui est très inspirée de Rochester dans le Kent. En fait, là, l'histoire est simple. John Jasper est secrètement consommateur d'opium, hein, et il développe une obsession malsaine en fait pour Rosa Budd, la fiancée de son neveu Edwin Drood. Et un autre homme, Neville, s'intéresse également à la jeune femme. Et une dispute éclate entre Neville et Edwin disparaît. Et Jasper, évidemment, hein, l'oncle libidineux et toxicomane, s'empresse d'accuser Neville d'avoir tué son neveu. Et là, on arrive dans une histoire, comment dire, assez, assez, comment dire, assez étonnante. Et d'ailleurs, assez étonnamment, c'est assez marrant, le film là de Stuart Walker est moins convaincant dans sa première partie que dans sa deuxième partie. C'est-à-dire que ce qui a été inventé par les scénaristes est beaucoup plus intéressant, en fait. Hein. Et le film va développer une thématique très étonnante, parce qu'on est en 35, soutenue par l'incroyable performance de Claude Reims, l'excellent Claude Reims, qui interprète un type... très, très, très étrange, quoi, hein, et qui donne une prestation très, 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 très convaincante, qui fait vraiment froid dans le dos, quoi. On préfère évidemment ce Claude Reims ambigu, froid, calculateur de la deuxième partie à toute la première partie, qui est une mise en place un peu plus laborieuse. Et dans sa deuxième partie, le film devient un excellent suspense, porté par un acteur très inspiré, hein, qui est Claude Reims. Mais bon, je vais arrêter de parler de ce film. Je vais te demander, Damien, toi, qu'en as-tu pensé ? Another trifling day, one more so stifling day, of blinding pain, boredom grinds my brain, down to the grave. Go quite mad, and not be all that bad. Consider each superb, disturbing urge you've ever had to curse aloud in church or choke each bloke who throws a smile your way. Be that as it may, man could have bad dreams and not be all he seems, yet not be far removed from all the noblest of extremes. Sometimes I think that sanity is just a passing fad. A man could go quite mad. Unblessed are the dull, one ceaseless, peaceless lull, some wondrous night, storm-struck, thunderous light, will cast me right. Vous écoutez Culture Prohibée. A sculptor lacking arms, a sorcerer lacking charms, a fiend who frightens no one, for there's no one that he harms, whose clutches clutter only desperate respite from this dim tableau. Knowing this is so, I hide myself in thought, where one cannot be caught, and feed on dreams that contradict each edict I've been taught. And if someday I lose my way and mind, you'll find me glad. A man could go quite, man could go quite, man could go.
Le mystère d'Edwin Drood, alors c'est un film des années 30, c'est une adaptation de Dickens, donc il me faisait un peu peur de base, mais je trouve que dès l'introduction il y a une ambiance qui se pose, ils arrivent à nous ressortir en fait pas mal cette époque victorienne, notamment à travers cette scène un peu d'hallucination où on voit différentes scènes qui vont, à ce moment-là, on ne sait pas si elles se sont passées ou si elles vont se passer. Et ça nous pose une atmosphère un peu étrange, légèrement fantastique. Et Dickens, c'est du fantastique, on connaît généralement ce que ça donne. Mais ici, c'est un peu tout autre chose. La force de la littérature de Dickens, c'est qu'il est toujours parvenu à bien refléter son époque, enfin pas fidèlement, mais à nous donner une atmosphère. Et je trouve que le film, dans son début, arrive bien à poser cette atmosphère. Alors, on ne sait pas vers où on se dirige au tout début. On est un peu tiraillé entre une histoire d'amour victorienne et vers ce qui va être potentiellement une histoire policière. J'essaye de rester brumeux dessus. Et on a un film déjà en noir et blanc qui est très beau, je trouve, avec des acteurs qui arrivent à sortir du lot. On arrive facilement à identifier qui est qui. Et c'est un film qui, en fait, au tout début, va un peu nous tenir par la main, va nous emmener quelque part. Et ce que j'aime beaucoup, c'est un moment où, en fait, le film prend une direction à laquelle on ne s'attend pas forcément. Alors, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive. Et au moment où ça arrive, moi, je pensais qu'on allait plus être concentré sur une certaine partie de l'histoire. Et quand on a ce changement, en fait, bah, la façon dont ça arrive, ça, je dirais pas que ça surprend, mais j'aime beaucoup vers quoi ça nous emmène. Et tout au long, je me retrouve porté par les personnages, surtout dans la deuxième partie avec bah, ce personnage un peu d'étranger qui arrive en ville, qui va être le moteur de l'action et qui va prendre beaucoup de consistance. Ces personnages que je trouve bien joués, j'aime bien les personnages féminins, toute la naïveté qu'ils arrivent à mettre dans l'intrigue, notamment la rencontre qui donne immédiatement lieu à un coup de foudre. On sent que c'est une histoire qui date du 19e siècle. Tout ça pour une histoire de chapeau. Mais oui, je suis assez brumeux autour du film parce que je veux pas non plus gâcher vraiment la surprise, mais c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. En fait, c'est un peu un... Enfin, généralement, on a certains films, on dit c'est des téléfilms qu'on regardait bien le dimanche après-midi, mais c'est rare d'avoir un film en noir et blanc, en fait, qui me donne cette sensation de juste me poser et me laisser porter par la poésie du film. Et c'est exactement ce que fait le mystère d'Edwin Drood de Stuart Walker, qui est disponible chez Elephant Film.
On va aller chez Carlotta Film, car oui, Carlotta Film qui sort toujours tout un tas de films classiques et indispensables. Voilà, donc c'est, on fait rarement une émission spéciale classique sans Carlotta Film, en vérité. Hein. Alors, aujourd'hui, on va aller du côté de chez Carlotta, et alors, classique de chez classique, on va aller au Japon, avec un réalisateur dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, d'ailleurs, hein, qui est Wim Wenders. Wim Wenders qui a décidément réalisé plein de choses. Moi, je ne connaissais pas du tout ce Tokyo Ga. Tokyo Ga, donc là, qui sort chez Carlotta, alors en plus dans une belle édition, hein, comme d'habitude, chez Carlotta, puisqu'elle est complétée de scènes coupées, d'un entretien avec Wim Wenders, et puis surtout, bah, on a le film en 2K, ce qui est pas négligeable, hein, ce qui donne un très beau, très beau film en termes techniques, en termes de qualité. Alors ça raconte quoi, Tokyo Ga? C'est une forme un peu étrange de documentaire d'errance typique de Wenders. Hein. Vous savez que Wenders dit que voilà, les scénarios et tout ça l'ennuie en fait, et que lui il préfère voguer comme ça, se promener, aller à la découverte d'éléments, de choses. C'est ce qu'il fait. Il part à Tokyo, Wim Wenders. En fait, on est en 85 et il part rechercher en fait des lieux qui lui rappellent les films du cinéaste Yasujiro Ozu, qu'on appelle plus communément Ozu. Donc, alors le film sort en 85, par contre on est au printemps 83. Alors lui il est cinéphile, donc évidemment il recherche des images qui l'ont particulièrement marqué. On est plus de 20 ans après la mort d'Ozu et il retrouve pas vraiment grand chose. Alors, la particularité de ce film aussi, c'est que Wenders assure la voix off, mais même en version française. C'est intéressant. Et donc, on a une sorte de déambulation, d'errance, comme ça, de Wim Wenders. Il va dans des endroits comme des salles de pachinko, de jeux de hasard, où, par exemple, des plans ont été tournés par le cinéaste japonais, par Ozu. Et puis, il retrouve dans les rues, vous savez, ces personnages qu'on voit beaucoup chez Ozu, qui discutent jusqu'à des heures interminables autour de verres de saké. Voilà, il retrouve. Il arrive à retrouver, en fait, en partant de pas grand-chose, en fin de compte, et en ayant un style très différent, il arrive à retrouver un peu l'état d'esprit du cinéaste japonais. Il interroge aussi des gens. C'est un documentaire où il y a des interviews. Hein. On va retrouver Shizu Ryu, qui est l'un des fidèles acteurs hein, d'Ozu, comme son directeur de la photo, hein, Yuhara Atsuta. C'est un drôle de déambulation d'un admirateur d'un certain cinéma et d'un certain cinéaste dans une ville dont on part à la découverte, qu'on part découvrir donc avec Wim Wenders, et qu'on vous encourage à voir si vous adorez Wenders et le cinéma japonais. Bah, c'est super, ce film est fait pour vous, bien évidemment. Ça s'appelle Tokyo Ga. C'est sorti chez Carlotta Film. Thank you. Vous écoutez Culture Prohibée, spécial classique. Autre sortie chez Carlotta Film, alors c'est pas vraiment dans notre ligne éditoriale, mais si notre ami Thomas Roland, qui est absent aujourd'hui, veut nous en parler, on l'autorisera, parce qu'on sait qu'il nourrit une passion incroyable pour Ozu, et qu'il a été très client de tout ce qu'a sorti Carlotta depuis de nombreuses années autour d'Ozu. Hein. Et là, Carlotta sort 6 films rares, voire inédits pour certains, dans un superbe coffret 4 Blu-ray, avec un livre de 80 pages, on a plein de choses passionnantes. On a du polar, par exemple, avec Femme et Voyou, un film de 33. On a tout, hein, du drame, du, enfin, voilà, tout ce qui fait le sel du cinéma d'Ozu. Je vous ai dit Femme et Voyou, on va voir Il était un père, dans une version inédite. Le récit d'un propriétaire, un film de 47. Il était un père, c'était de 42. Une femme dans le vent, qui est un très beau drame conjugal, hein, film de 48. Les sœurs Munakata de 1950, le Dernier Caprice de 61, film plus tardif, et Quand la cloche de la jeunesse a sonné de 63. Alors pourquoi Quand la cloche de la jeunesse a sonné, qui est un téléfilm inédit complètement, alors qu'il est réalisé par Tsuneo Watanaka? Tout simplement parce que c'est un scénario commun de Tone Satomi et Yasujiro Ozu. Et puis il y a surtout plein de suppléments, comme fait très régulièrement Carlotta. On va retrouver Pascal Alex Vincent, qui est venu plusieurs fois, hein, dans notre émission. Pascal Alex Vincent, là, qui va parler de Femmes et Voyous. On retrouve Jean-Michel Frodon sur Il était un père et les sœurs Munakata. Et puis évidemment, une analyse de l'inévitable et passionnant Jean Douché, hein, sur Il était un père. Et puis voilà, puis il y a plein d'autres choses qu'on va découvrir dans ce coffret. Ce coffret Ozu, donc 6 films rares ou inédits, qui est, c'est le nom du coffret, hein, donc tous les films sont en 4K, je vous le dis, hein, et qui est donc disponible chez Carlotta Film. Ça fait un très beau double, triple, quadruple, quintuple, sextuple, et plus que sextuple programme, puisqu'en plus il faut y ajouter Tokyo Ga. Donc Tokyo Ga et les 6 films d'Ozu, c'est disponible chez Carlotta Film, et c'est indispensable pour tous les cinéphiles passionnés par le cinématographe nippon. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut.
Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demé dit La Bête Noire de Compiègne. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Take the money, why don't you, honey?